Bonsoir, Kiola, good evening. Vous êtes sur Amuse Gueule, une émission, comme de coutume, placée sous le signe de la jeunesse et de la beauté. Une émission placée sous le signe, une émission qui dégouline de chaud, une émission qui sent l'huile solaire, où je suis mieux entouré qu'à l'accoutumée, puisqu'autour de moi j'ai Séverine. Bonsoir Séverine.
Bonsoir Romain.
J'ai Sylvie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Maëva qui est là en touriste.
Bonsoir.
Bonsoir Maëva. Ce sont ses premiers. Et ce petit accent un peu rigolo, c'est un accent suisse. Et nous avons Alix à la technique.
Bonsoir. Bonsoir.
Sylvie, on parlera de bilinguisme et de ces petites différences entre le suisse et le français, ces petites différences qui font les couples heureux.
Exactement.
Séverine qui nous parlera de YK, parce qu'apparemment on dit YK,
bien que ça me semble. Oui, on ne dit pas Waiki, comme j'ai dit pendant 18 ans, on dit YK.
Ça me semble tout à fait saugrenu.
Non, je vous expliquerai pourquoi.
Un peu plus tard. Mais tout de suite, on commence avec une très très belle surprise de 2018. On sort un peu du cahier des charges là, parce que on se tient normalement à passer des musiques francophones, mais cette fois-ci c'est un tube anglais, mais chanté par une Française. Cette Française, c'est Charlotte Gainsbourg, et la chanson, c'est Such a Remarkable Day, et c'est très très chouette. Radio, on nous pose cette question, on nous dit c'est compliqué d'être bipolaire, d'être bisexuel aussi, et être bilingue, est-ce que c'est aussi compliqué?
Alors, c'est une bonne question.
Une bonne question.
Non, être bilingue, c'est une qualité. Et ça a de nombreux avantages. Donc oui, beaucoup de monde pense que c'est difficile pour les enfants, surtout, d'apprendre deux langues. Mais non, c'est même plus facile pour eux d'apprendre les langues quand ils sont enfants, comparé aux adultes.
Et pourquoi ?
Ils sont souples, ils sont plus flexibles.
Ouais.
Le cerveau est beaucoup plus... Oui, le cerveau est beaucoup plus flexible et...
Comme une éponge, il souffle, non ? Voilà, on est... Qu'est-ce que t'en penses ?
J'ai pas compris ce que tu as dit.
Ah non, ce que je pense, c'est que les enfants étant comme des éponges, ils ont pas d'a priori. Ils entendent beaucoup plus de sons, d'après ce que je sais, non ?
Et leur mâchoire, la langue, toute la construction est beaucoup plus souple et donc ils entendent beaucoup de sons.
Oui.
Et plus ils grandissent, plus ils ont les sons de leur langue maternelle. Et donc voilà. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup d'études qui ont démontré donc qu'il y avait beaucoup d'avantages à être bilingue. Mm-hmm. Donc le premier avantage, c'est que c'est meilleur pour la santé. Ça aide à diminuer le processus de vieillissement. Mm-hmm. Ça aide beaucoup pour la mémoire. Mm-hmm. Et ça diminue les chances d'avoir de la démence, apparemment. Mm-hmm. Et les bilingues sont meilleurs lors des multitâches. Et il y a beaucoup d'avantages cognitifs aussi. Donc, les bilingues ont une aptitude plus prononcée à ignorer les informations qui ne sont pas pertinentes et donc arrivent mieux à se concentrer. Et le deuxième avantage, c'est qu'ils retiennent beaucoup plus facilement les infos. Par exemple, ils retiennent des informations dans un bref instant, et ils arrivent à manipuler ces infos, les utiliser. Et ils ont aussi une aptitude donc à changer de tâche plus rapidement. Oui. Et donc, ces avantages sont associés au cortex préfrontal, et qui est donc plus stimulé chez les bilingues. Voilà. Donc, il y a aussi des avantages qu'on appelle des habiletés métalinguistiques. Donc, les bilingues ont une meilleure conscience des langues en général, donc de leur forme, leur structure, le sens, leur son. Et aussi de la similarité entre leurs langues, leurs deux langues ou trois langues, des fois il y a des trilingues.
Et des polyglottes.
Voilà, exactement. Et donc les différentes langues que les bilingues ont, elles sont toujours activées dans le cerveau. Donc ils peuvent vraiment switcher d'un langage à l'autre.
C'est ce que tu viens de faire gentiment.
Et comme ta fille, par exemple, Nina, qui parle le franglais, donc qui parle le français, et qui inclut des mots en anglais ou le contraire.
Nous, je pense juste à un truc là. On a, dans notre communauté francophone, on a beaucoup d'enfants qui sont à Richmond Road ou à l'Étoile du Nord, et on est entouré de bilingues, de trilingues, d'enfants polyglottes, et tu les vois absorber ces langues très facilement. Donc tout ce que tu dis, nous on le vit au quotidien, la facilité avec laquelle ils appréhendent les langues, les ponts, enfin les mécanismes qui se forment très facilement pour eux d'imiter, de trouver des rapports, je sais pas comment dire. Toi tu es linguiste, tu arriveras à avoir plus les mots, mais c'est simple pour eux d'apprendre des langues. Tu en as deux, tu peux en avoir une troisième assez facilement qui ressemble, etc. quoi.
Oui. Et être bilingue, ça veut pas dire utiliser ces deux langues pour les mêmes domaines. Donc on appelle ça aussi le principe de complémentarité. Donc des fois tu utilises par exemple le français pour un certain domaine de ta vie, le français par exemple à la maison. Donc il y a quand même une langue qui est toujours dominante.
Ah bon ?
Assez souvent. Et donc il y a des expériences qui sont faites par les linguistes par rapport à ça, qui s'appelle la tâche de décision lexicale, qui consiste à voir des mots sur un écran très vite et décider si c'est un mot ou pas. En anglais ou en français, ça dépend quelle langue est testée.
Alors par exemple, c'est quelqu'un qui est bilingue français-anglais. On lui met des vrais mots, pas des mots inventés.
Non, il y a aussi des mots, des faux mots, et il doit dire si c'est un mot,
d'accord.
Mais qui ressemble.
D'accord. Donc on va voir si automatiquement il a une reconnaissance plus spontanée
plus
dans
rapide,
quelle langue. Quoi.
Plus rapide
et
aussi.
Du coup,
Et ce que je voulais ajouter, oui, c'est que plus les langues se ressemblent, par exemple le français et l'anglais, il y a quand même beaucoup de similarités, beaucoup de d'orthographe qui est la même, plus c'est difficile pour eux de switcher cognitivement. C'est beaucoup plus difficile pour eux cognitivement de...
Je comprends pas. Plus les langues se ressemblent. Donc tu trouves que l'anglais et le français se ressemblent, d'accord.
Oui, plus il est difficile de passer de l'une à l'autre ou plus il est difficile d'appréhender, d'apprendre l'autre?
Non, plutôt de passer de l'un à l'autre. C'est, cognitivement, c'est beaucoup plus, ils prennent beaucoup plus de temps. Par exemple, justement, avec ces tests. Avec ces tests, s'il y a un mot en anglais puis un mot en français, s'ils doivent, par exemple, choisir si c'est anglais ou français, c'est beaucoup plus difficile que si peut-être quelqu'un qui a appris le chinois ou le français. Ouais.
Déjà, l'orthographe, ça va aider, quoi. L'alphabet, je veux dire. Pas
l'alphabet est différent.
Ah, ouais, mais... c'est certainement le chinois.
Donc, voilà.
Et ces modifications dont vous parliez, ces aptitudes, sont-elles les mêmes que l'on apprenne la langue dès l'enfance ou plus tard?
Alors, le plus tôt, le mieux c'est, bien sûr. Parce que, comme je disais, c'est plus facile quand on est enfant d'apprendre les langues que quand on est adulte. Donc là, en tout cas, là, ces avantages cognitifs, c'est plutôt pour les enfants. Dès qu'on apprend la langue plus tôt, c'est là qu'on développe ces avantages cognitifs beaucoup plus que lorsqu'on est adulte, en fait. C'est beaucoup plus...
On forme peut-être des connexions neurologiques qu'on ne forme pas d'une manière aussi intense, aussi riche. Je ne sais pas comment ça se passe dans le cerveau, mais ça serait très intéressant. Oui, plus tard. Et c'est connu que... Moi, j'ai toujours entendu dire qu'un enfant, jusqu'à ses 2 ans, il peut entendre tous les sons. Tous les sons, tous les sons, tous les sons. Un son en mongol, un son en coréen, un son en laotien, un son en téréo. En espagnol, en anglais. Et puis après, ça commence à se fermer. On entend qu'il y a des sons qu'on entend moins bien. En tout cas, on n'arrivera pas à les reproduire. Parce qu'on ne les entend pas correctement, donc on ne les reproduira pas. Donc c'est pour ça qu'on a des accents. Alors les gens qui ont l'oreille musicale, déjà, ça aide forcément pour la prononciation. Donc c'est ce que tu disais aussi. C'est vraiment un rapport... Mais après, ça s'entraîne, non hein? Oui, il y a des gens qui sont super bilingues, qui apprennent...
Après, c'est une généralité, mais ouais. Il y a quand même une théorie qui dit qu'après, je crois que c'est 16 ans, après l'âge de 16 ans, tu as appris aussi, Malva. Après l'âge de 16 ans, c'est plus difficile d'apprendre les langues, justement. Parce que le cerveau est construit, enfin...
Bloqué.
Beaucoup plus développé. Pas bloqué. On peut toujours apprendre les langues, même à 30 ans, n'importe quel âge.
L'âge de la créativité maximale, toi qui es dans le domaine de la petite enfance, comme moi, d'une manière... toi, t'es beaucoup plus professionnelle que moi. Moi, je suis balbutiement. Mais il est prouvé que le domaine de la créativité est en son pic à 7 ans. Et après, oui, ça descend.
Oui, oui, je suis assez d'accord avec ça. La vie n'est plus qu'une longue dégringolade après ces 7 ans.
Bon, après, moi, j'ai une autre théorie, mais je ne vais pas... je peux vous en parler, si vous voulez. Non, je crois que... Parce qu'il est aussi prouvé, maintenant, en biologie moderne, d'ailleurs, c'est le monsieur de Ronet, qui est un professeur en biologie, c'est quelqu'un qui bosse sur le génome depuis toujours, et il est dit, c'est très, très récent, genre il y a 4 mois, 5 mois, que on sait maintenant que 90% et... alors, comment il a dit? Que tu peux... toutes les expériences qu'on fait forme notre être, donc on peut totalement changer tout. Il y a peut-être 5% qui vont être difficiles à changer, mais en le reste, on peut changer. Donc c'est comment on mange, qu'est-ce qu'on respire, les gens qu'on voit, nos pensées sont créatrices, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, la beauté dans laquelle on s'entoure, donc tout nous influence. Alors à vous de choisir, à nous, moi aussi, de choisir si on se fait influencer par du beau, par du moche, par des choses qui sentent bon, pas bon, et on change complètement, on peut absolument réparer des trucs intérieurs, hein. Et ça se voit sur l'ADN.
Ça se voit sur l'ADN. Attends, excuse-moi.
L'ADN, mais bon, c'est très début, subtil. C'est vrai. C'est un peu trop subtil pour
un peu trop subtil là,
pour l'heure. Alors continuons.
Ne change rien, ne change pas, c'est vrai, ne change pas.
Je change, mais j'évolue, hein. Figure-toi.
Vous, Sylvie, Maëva, vous êtes suisse. Est-ce que ça veut dire que vous êtes bilingue ou trilingue de naissance?
Ah non, moi pas. Il y a des Suisses, bien sûr, qui sont bilingues, qui ont appris l'allemand ou le suisse-allemand depuis l'enfance, mais moi pas, par exemple. que le français.
Et ceux qui sont bilingues, ça veut dire qu'ils vivent plus près de la frontière, qu'ils sont issus d'un couple mixte. Dans quelles circonstances apprend-on encore les deux langues au plus petit âge? Je veux dire, l'apprendre vraiment à égalité, presque.
Ah oui, alors je dirais, vu que je viens du Jura, ce qui s'entend peut-être à mon accent, on est très proche du côté suisse-allemand, et c'est souvent à cause des familles. Donc les parents parlent suisse-allemand, avec les grands-parents on parle suisse-allemand, mais les enfants vont à l'école, ils doivent descendre de leur montagne, comme on dit, et ils vont apprendre le français parce qu'ils sont avec des camarades francophones. Donc c'est comme ça qu'ils apprennent le français, et après souvent ils rentrent et ils parlent en suisse-allemand avec leur famille.
Voilà. Okay.
Donc c'est familial. Oui, très familial.
Donc comme vous disiez, chaque langue correspond à une fonction, un environnement.
Souvent, oui.
Et une utilité.
C'est
souvent
le cas. Ouais.
C'est très très curieux ça. Très curieux. On avait une petite chanson pour illustrer cette chose qui est le...
Bah, on parlait de langue, donc ouais. J'ai bien envie de vous passer Polyglotte de Henri Dess, qui va aussi nous rappeler des souvenirs d'enfance.
Quel à propos.
Moi, je sais parler toutes les langues, moi, je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. J'ai des baskets, ça c'est un mot en anglais. J'ai des baskets pour faire mes petits trajets. Un anorak, mot qui vient des Esquimaux. Un anorak pour quand tu fais pas beau. Moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. Les spaghettis, mot qui nous vient d'Italie. Les spaghettis me mettent en appétit. C'est le yaourt, mot qui vient de Bulgarie. C'est le yaourt, mon dessert de midi. Moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. J'achète au kiosque, mot qui nous vient de Turquie. J'achète au kiosque mes journaux favoris. Sans un copec, mot qui nous vient de Russie. Sans un copec, je peux pas faire des folies. Moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. C'est sur un yacht, mot qui vient du hollandais. C'est sur un yacht que je passe le mois de juillet. Grâce au judo, mot qui nous vient du Japon. Grâce au judo, je ne suis plus un poltron. Moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. Par cette chanson, mot qui nous vient du français. Par cette chanson, je peux dire désormais, je suis polyglotte, mot qui vient du grec ancien. Je suis polyglotte et j'ai pas de les copains. Moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie.
Que c'était délicieux cette petite chanson, enfantine. Sylvie, vous vouliez nous parler de ces petites différences et ces touches de couleur entre le français, le français tel qu'on le parle en France et celui que l'on parle en Suisse.
Alors d'abord, je voulais citer quelques petites anecdotes, mais peut-être que...
Non, mais j'adore les anecdotes.
Oui. C'est sur les langues en général et sur la langue française, puisque on est à la radio française.
Francophone,
pardon. Donc, vous saviez qu'il y avait 6000 langues dans le monde?
Non.
Wow. Ça, c'est un...
Et combien qui meurt,
combien de langues meurt-elle?
Si vous me laissez parler, peut-être que je
oui,
vous le dirai.
Vas-y.
Donc la moitié de la population mondiale est bilingue. Donc ça en rapport avec ce que je parlais avant. Et il y a 2400 langues environ qui sont en danger. Et donc une langue s'éteint toutes les deux semaines. Donc ça c'est triste. Et l'anglais, c'est l'anglais qui est assez, enfin, qui est en partie responsable, qui tue énormément de langages. Voilà. En Europe, il y a 24 langues officielles. Et l'espagnol, c'est la deuxième langue parlée, la plus parlée au monde. Après l'anglais, bien sûr. Et l'allemand est la plus parlée en Europe. Et là, on va passer au français. Donc, est-ce que vous saviez qu'il y avait 20 000 nouveaux mots qui sont créés chaque année en français? C'est énorme. Mmh. Et 30% des mots anglais viennent du français. Donc, on a inspiré la langue.
Ils sont créés en français ou c'est simplement volés
Alors, il y a des mots qui ont été empruntés tels quels. Et il y a des mots qui ont été empruntés et qui ont été un peu changés de sens ou changés l'orthographe. Donc, mais il y a pas mal de vocabulaire qui ressemble au français, en anglais. Et ils nous ont volé quelques mots. Voilà.
Il y a tous les mots en sion déjà. J'ai l'impression.
Exactement.
Sion, révolution, démolition.
Bah, déjà, information. Exact, c'est la same, voilà, je parle en anglais. La même orthographe. et donc, à part l'anglais, le français est enseigné dans la majorité des pays du monde. Mmh. Il y a 100 millions d'étudiants et 2 millions d'enseignants. Et 20% sont en dehors des pays francophones. Donc, c'est pas seulement dans les pays francophones que le français est enseigné. Mmh. D'ailleurs, je savais pas qu'ici, on pouvait enseigner le français. Et en Australie aussi. J'étais assez étonnée.
Et alors, j'ai une question.
Oui.
Selon toi, qu'est-ce qui explique cet engouement pour le français? Est-ce que tu as une théorie?
Comme je l'ai dit, j'étais très étonnée qu'ici, en Australie, on apprenne le français. Je ne sais pas. Ici, j'ai l'impression, j'ai rencontré beaucoup de gens de France, donc communauté française en Nouvelle-Zélande.
De France,
donc,
qui parlaient français en tout cas.
Oui. Ouais. Et donc, peut-être que c'est ça aussi qui fait que les gens ont envie de parler, d'apprendre le français, je ne sais pas.
Non, c'est pas ça.
Ou c'est une belle langue.
Ouais, voilà. Moi, je vais te dire, je vais pas tout vous dire, mais vous pensez pas que c'est parce que l'accent français est tellement sexy quand on parle en anglais, ça compte. Paris, la cité de l'amour, la culture française, les parfums, la femme française, la nourriture, les vins. C'est la culture française qui a quand même qui séduit, je pense, non? Les gens aiment voyager en France et du coup ils ont envie de. Qu'est-ce que t'en penses?
Histoire de marketing, oui, une histoire d'image.
Et je pense que le fait aussi que notre accent, on a quand même beaucoup de chance d'être dans ce pays-ci où on est toujours accueilli avec le sourire. Souvent, les gens sont charmés par notre accent. Donc, ne faites pas trop d'efforts quand vous parlez anglais. Ne n'essayez pas de corriger.
Non, je pense que tu es sur le bon chemin, mais tu dois aller plus loin. Tu dois dire que si on est aussi populaire ici, c'est parce que l'immigration française est assez réduite. Donc, ils ne nous connaissent pas. Je pense que quand la communauté française s'agrandira, on perdra un peu de notre image de marque.
Non, on l'a déjà perdu parce qu'avec les backpackers qui viennent ici, qui n'ont pas d'argent et qui se comportent comme des vraiment mal.
Non, là, j'ai la honte.
L'image est déjà ternie. Mais je pense que la langue qui a une aura et la culture française qui a une aura qui date d'il y a des centaines d'années ne partira pas comme ça. Et à chaque fois que des kiwis
voyagent, se renouvelle un petit peu parce qu'on peut pas vivre très longtemps sur nos lauriers.
Non, mais je pense que le fait que notre accent est charmant aide beaucoup à la propagation de la
langue. Le tien est charmant.
Mais le mien, mais j'en ai pas. Moi, je vois pas.
Allez. C'est drôle. Sylvie, pardon.
Oui, non, c'est très bien. Ce que j'ai trouvé aussi assez fascinant, c'est que Kinshasa est la deuxième ville où le français est le plus parlé, après Paris. Et Montréal et Bruxelles passent derrière. Donc, c'est assez... Enfin, pour moi, c'était étonnant. Je ne sais pas vous.
Parce qu'ils sont tellement nombreux.
Oui, c'est une grande
ville. Au Congo.
Je ne me suis pas posé la question. Mais peut-être, oui.
République démocratique, du coup.
Et puis aux États-Unis, je ne savais pas aussi qu'il y avait 6 à 11 millions d'Américains qui parlent français.
Toujours encore. Okay.
Toujours encore.
Où c'était les... J'ai loupé.
Aux États-Unis.
Ah, 11 millions.
Donc c'était mes petites anecdotes.
Merci.
Eh bien, merci. Eh bien, merci. Et comme on a du temps et comme il fait beau et comme tout cela est bien joli, on écoute Bourvil qui chante C'était bien au petit bal perdu. C'est bien.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien.
Que j'aime bien en étant pas bilingue, j'aimerais tellement l'être, mais en étant, comment dit-on, quand on sait parler de...
Monolingue.
Non, non, pas monolingue, mais quand on parle couramment une autre langue que la sienne, il est assez plaisant, à partir du moment où on la maîtrise, on la contrôle un tout petit peu, d'être derrière un masque. C'est comme si c'était un vêtement qui nous fait prendre, à cause duquel on est pris pour autre chose ou quelqu'un d'autre que ce qu'on est, mais qui peut être joli. C'est une sorte de divertissement, un divertissement de soi. C'est des vacances de soi, parler une autre langue.
Oui,
parce qu'en plus, le ton change, l'esprit change. J'ai l'impression d'acquérir
une
personnalité légèrement différente quand je parle en anglais.
C'est vrai. Et je serais très curieuse de savoir s'il y a des études qui ont été faites sur ce changement de personnalité, parce que j'ai l'impression que tous les gens à qui j'ai parlé, qui ont ce bilinguisme ou qui sont fluent dans une autre langue, ont l'impression de changer un petit peu leur personnalité quand ils s'expriment dans l'autre langue.
Alors moi, je peux te dire que oui, il y a des études qui ont été faites. Il faut rechercher, mais j'ai lu des choses là-dessus.
Mm-hmm.
C'est démontré, c'est très intéressant. En psychologie, ça se travaille, ça s'étudie, ça, c'est passionnant.
En effet. Et, et toi, Séverine, ta personnalité en anglais, quelle était la
personnalité débordante. En langue anglaise, d'abord, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à l'anglais. C'est ma deuxième langue étrangère. J'ai appris l'allemand pour être dans des bonnes classes. Parce que en...
C'est pas une interview non plus. Mais là, en anglais, quelles sont les différences entre le toi anglais et le toi français, s'il y en a?
Oui, j'ai appris quelque chose, c'est que j'essaie d'être moins rentre-dedans, ça me fait beaucoup de bien, moins direct.
Tu es plus douce, plus caressante.
Non, plus douce, plus caressante, c'est à voir.
Plus feuille dans le vent, en anglais.
Voilà. Oui, il y a eu pas mal de vent aujourd'hui sur le bateau en rentrant de Waheke. Donc, je pense que le fait que l'anglais soit une langue si indirecte, qui m'a pas mal gênée, j'ai appris des choses.
Sur toi-même, en parlant anglais.
J'ai appris des choses sur la manière de m'exprimer, donc effectivement, la manière d'aborder l'autre.
Non, c'est pas une interview. Mais non, ce que
tu
je
m'as
veux dire,
de...
réponds à ma question.
Oui, ça a changé une manière
ça
de
ça a changé la
de
perspective
communiquer.
De communiquer avec toi-même.
Alors, vis-à-vis de moi-même, j'apprends tout, des choses vis-à-vis de moi-même. Et je,
oui, là, en anglais. En anglais. Et tu, les choses que tu... Les questions
alors
que
là,
tu poses
j'ai
en anglais à toi-même
sont-elles
plus pertinentes que d'autres?
Non.
Celles-là posées en français.
Non. C'est un peu trop évolué là pour moi. Donc.
En tout cas, tu vas réfléchir pendant que Sylvie nous parle de si. J'y reviens encore. C'est différence amusante entre le français et le suisse français.
Alors je vais faire sous forme de petit quiz. Je vais vous poser des questions. Vas-y. Vous me direz si vous comprenez quelque chose. Par exemple, est-ce que vous savez... Bon, Séverine, je pense qu'elle sait. Parce qu'elle j'ai vécu avec elle pendant 4 mois. Donc, vous appelez une serviette.
Oui, je sais. Oui.
Comment on appelle une serviette en Suisse? Enfin, en français suisse. Je ne sais pas comment dire ça.
C'est pas un linge? Bravo.
Oui,
c'est
juste. Exactement. Bravo. Et pour vous, pour les Français, le linge, c'est le... C'est pas le linge de cuisine ou c'est, est-ce que c'est parce que nous pour nous le linge c'est le linge de bain, enfin la serviette de bain pardon.
Le linge c'est tout ce qui se lave, tout ce qui se met en machine à laver, c'est ça le linge chez nous.
Mais la serviette c'est le linge aussi,
de maison, oui.
Ah d'accord, ouais. Mais la serviette c'est vraiment la serviette.
Ah non le linge oui c'est tout ce qui se met à la machine à laver qui n'est pas vêtement. Non, c'est du linge ou ça?
Oh, oui, okay. C'est ça.
Ok.
Et la serviette pour vous c'est le linge le la serviette de bain.
C'est beaucoup de choses, une serviette.
Parce que pour nous, le linge, c'est un peu tout, quoi. Ouais. Ça peut être le linge sale, ça peut être le linge qu'on prend pour la plage, ça peut être le linge...
Non, on ne prend pas du linge à la plage. Non, ça se fait pas.
Ouais. C'est ça la différence.
Pour qu'on soit très, très chic.
Alors, continue. Je prendrais de la lingerie, moi.
Qu'est-ce qu'on appelle un cornet?
Peut-être pas pour aller à la plage.
Un cornet? Ah, un cornet. Un chapeau?
Non.
Une trompette.
Un cornet de glace.
On appelle aussi un cornet de glace, mais il y a autre chose aussi.
Un cornet, c'est
une poche.
Non,
c'est pas ça.
C'est d'usage courant. On s'en sert tous les jours.
Oui,
très couramment, oui. Un cornet. Eh ben, Léo, parce qu'on sait.
Un micro.
Non. On va le bannir, j'espère.
Ah, le sac plastique.
Sac en plastique.
Ça, c'est un cornet. Alors, je pensais que vous disiez une poche.
Ah non. En Belgique, nous avons la pochette des fois.
En fait, pas dans votre canton, mais ma copine suisse d'un autre canton dit toujours une poche.
Moi, poche, j'ai entendu à Toulouse. Alors,
Non.
Pas oui. En Suisse, moi, jamais entendu.
On m'a dit poche à Toulouse.
Donc, je mets un point dans les deux camps.
Ok. Ça, c'est quelque chose de facile, c'est les chiffres.
Ah,
on ne dit pas 90, on dit 90. Ouais. 70, 90.
Mais alors, je me suis laissé dire que 80 pouvait se dire 80 ou 80. Où est la différence?
80, moi je le dis par exemple à Neuchâtel. À Lausanne, ils disent 80, c'est juste.
Je sais pas.
Il me semble qu'à Lausanne, ils disent 80 et nous on dit 80 à Neuchâtel. Ça dépend des cantons.
D'accord. Est-ce que ça compte comme un dialecte différent?
Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a des différences même dans le pays, donc c'est assez complexe. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
Un point pour les Français.
Allez, donne le nom.
Ah oui, vas-y, un
point. Très allègrement.
Comment on dit un gant de toilette?
Un gant de toilette.
Un vieux sein.
Alors, oui, là, aussi.
Non, vous n'êtes pas sympa.
Alors ça, je ne sais pas si on le dit au Jura, parce que encore une fois, je suis de Neuchâtel, ma Eva est du Jura et c'est différent. Ah. Chez nous, on dit une lavette.
Comme c'est drôle.
On l'a dit aussi au Jura.
Ben nous, on dit une lavette quand un homme est une lavette. Toi. Non, tu ne te prendras pas une lavette. Ouais, une lavette, tu lui... Non, ça, c'est pas bon. Quoi, tu vois.
Et l'autre fois, quand j'ai dit à Séverine, bon. Passe-moi la pâte, elle n'a pas compris ce que je demandais. C'était juste un... Comment vous dites?
Une éponge.
Un torchon.
Oui.
La pâte
molle.
P-A-2-T-E, hein, pas la pâte.
Ouais. Donc, c'est là,
donc elle ne comprenait pas ce que je disais. Ouais. Voilà. Ça, c'est aussi... Quelque chose qui arrive tous les jours et on se demande, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, par exemple, le sopalin, c'est une marque pour moi, le sopalin. Donc oui. Nous, on ne dit pas le sopalin.
Essuie-tout, vous dites, non?
Non, non plus.
Même bien. Pas. Moi, je dis le papier ménage.
Papier ménage, oh, c'est bien.
Ouais,
c'est pas mal du tout.
Papier ménage.
Ah, ouais. Oh, c'est une belle invention.
Oui,
oh,
voilà.
Fort, les mecs.
Les filles.
C'est comme papier cadeau, mais pour le ménage.
Ouais, c'est bien, passe-moi exactement. Du papier ménage. Oh chérie, n'oublie pas d'acheter du papier ménage. Ça le fait, tu vois. Je suis déjà assez à l'aise non. avec ce mot.
J'ai envie de le répéter. Je crois que Lise appréciera.
Pourquoi?
Papier ménage.
Non, c'est joli.
C'est très poétique.
Et même par écrit, je crois que c'est beau avec un joli petit tiré entre les deux. Enfin, je vais lui texter tout de suite.
Ah, il n'y a pas
chérie,
de tiré,
achète.
Peut-être.
Ah, moi, je vais le mettre.
Oui, ça
peut. Je te donne un petit cachet.
Oui.
Je ne l'écris pas beaucoup.
Mais l'Académie française en décidera.
Oui,
on devrait écrire à l'Académie française pour leur demander.
Exactement. Achète du papier
N'oublie
ménage.
Pas, en magasinant, d'acheter
en magasinant,
du papier ménage. Quand ouais. tu gareras ton char sur le,
là, on part au
l'air
Québec.
De stationnement. J'ai papier vécu ménage. Avec des
clés. Moi, je ne serais pas venu pour rien.
Non. Et alors, qu'est-ce que, par exemple, quand j'entre dans une pièce et je dis, y a du chenille ici.
Du chenille, c'est du fouillis. C'est ça?
Exactement. Exact.
C'est le bordel.
C'est
le bordel.
C'est du chenille.
Je pensais
chenille.
Que ça sentait pas bon. Non, c'est pas ça.
C'est du chenille. Il y a du chenille.
Il y a du chenille. Ah.
Ça sent le chien mouillé.
C'est ouais, ça sent le chenille. C'est d'où l'association.
Voilà.
C'est ça.
Et puis votre mobile, comment on l'appelle en Suisse?
Votre mobile.
Le Natel.
Cellulaire.
Exactement.
Le Natel?
Mais oui,
c'est mon Natel.
De la famille de Nutella?
Natel. Il faut bannir le Natel.
Alors, je ne sais pas d'où ça vient par contre, mais on l'appelle le Natel.
Non, le Natel.
Oh, c'est fou, parce que j'avais une amie qui venait de Suisse quand j'étais toute petite en vacances, et les souvenirs reviennent.
Ah, voilà.
T'entendre, c'est incroyable.
C'est cool. Le sèche-cheveux. Après, je ne suis pas sûre de moi là-dessus, mais il me semble.
Le vent de tête.
Ah, oh, joli. Joli, Romain.
Quel non, c'est un nom d'un vent.
Le zéphyr.
Le feun.
Ah,
on va se feuner les cheveux. Ça se dit couramment.
Ah oui, alors là,
on
je ne
sèche pas
du...
les cheveux. On se les feune.
Et moi, une fois, j'ai demandé à Séverine le feun, mais après, je me suis reprise assez vite.
Ouais, parce que le feun, je dis, tu veux du feu? Du feu? Non. Ok.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, Iroy.
Iroy.
Ça veut dire quoi, Iroy?
Hiroshima.
Iroy.
Ah, Iroy.
Au Jura, Iroy beaucoup.
Elles me l'ont dit tout à l'heure, j'ai déjà oublié.
Par rapport au...
Il pleut, non?
Iroy.
C'est ça, il pleut, mais très fort. C'est...
Okay. Il pleut. Training Katzendorf.
C'est
il pleut des cordes.
Des halbardes.
Ah oui, c'est médiéval.
Alors, ça, je ne connaissais pas.
On pourrait faire une émission comme ça sur toutes les expressions. C'est joli, je trouve.
Il y en a sûrement que j'oublie parce que c'est pas.
C'est
naturel.
Au Québec qu'on dit le joie.
Une autre.
Qu'est-ce que j'ai encore?
Il feune.
Ah, moi j'ai quelque chose après.
La serpillière. Je suis pas sûre de moi non
la
plus, mais je crois.
La serpillière, ça c'est français.
Oui.
Mais
alors, comment on dit chez nous?
Bah, la serviette de terre. La serviette de sol.
La panosse.
Ça, on dirait
pas très suisse.
Non, la panosse, ça fait presque un mot de chinois.
Ouais, elle essaie de s'éventer.
La panosse, tu me prends la panosse.
On va essayer d'oublier.
Maëva,
j'ai une expression jurassienne, des schlecks. Ah, j'adore les schlecks. Est-ce que vous connaissez ce que c'est, les schlecks?
Les schlecks?
Ouais.
Et c'est pas
c'est
péjoratif.
C'est délicieux.
Ça se mange, les schlecks.
Les bonbons. Quelque chose dont on a hâte.
Voilà, les
bonbons. Les schlecks.
Ah, on se schlecks.
On se les schleck, on se les.
Ah non, schmeck. C'est des, les schlecks sont les bonbons. Les
schlecks.
Mais ça, c'est
les
un truc.
Les sucreries.
Ça, ça c'est un mot allemand parce que schleck.
Oui, c'est schmeck, schleck. Exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui sont différents du français de France.
Couramment, attention.
Parce que les langues autour de nous, donc l'italien et l'allemand surtout, nous influencent.
Les schlecks,
c'est ça. Et il y a aussi des expressions, donc on dit toujours ça joue. Par exemple, moi je le dis tout le temps et les Français n'aiment pas.
Mais est-ce que tu peux le dire avec l'accent?
Ça joue, c'est dire ça,
ça
le fait.
Joue.
Ça joue. Ça va.
Bah,
ça
par exemple, on se retrouve demain à 2h, ça joue.
Ça le fait, ça marche. Ça marche.
Ça colle.
Ouais. Ça marche, je le dis aussi, mais ça joue, c'est apparemment.
Très suisse.
Ça joue,
c'est très suisse.
Mais ça joue tout seul, ça joue avec
ça
un
joue.
Ami.
Ça joue à deux, ça joue à trois.
Comme vous voulez.
Comme ça.
Et on dit aussi, c'est bonheur.
Ah oui, ça,
ah, oui.
Ça, ça, ça traverse la frontière.
D'accord. Alors voilà.
Eh ben, ouais, qu'est-ce que c'est bonheur?
On dit bonheur aussi, mais c'est horrible.
Ah oui, puis bien sûr, un truc que vous devez connaître, qui m'a causé des problèmes aussi pour l'anglais, c'est que moi je dis le petit déjeuner, le dîner et le souper.
Oh dear.
Donc du coup, même en anglais, le dinner, c'est, pour moi c'était le soir, le midi.
C'est pardon. Plus que...
Donc voilà.
Qu'ils ça, prennent en général à l'heure de l'apéro pour compliquer les choses.
Donc c'était difficile pour moi aussi, ça.
À 5h. Et demi.
Bon, alors,
voilà, voilà.
On revient avec un quiz. Laissez les points où ils en sont. On revient tout de suite. On écoute une celle-ci, c'est à la demande populaire. Ça marche beaucoup. C'est lundi, c'est Jessie Garonne.
C'est toi qui veux ça.
Oui, parce que j'adore.
Ouais, vas-y, allez, ça joue.
C'est lundi, dans l'île, les 11h, mal au cœur, mal dormi, envie de pipi, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, c'est pas beau, ouais, c'est pas chaud, me laver, me raser, m'habiller, me peigner, mes cheveux, bien coiffé. Ouais, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les deux heures, je suis chômeur, je suis pointé, au pied moué, dans mon cœur, il y a plein de douleurs.
Cigare, non?
Ah, j'adore.
C'est vrai?
Ouais.
Tu passes pour me faire plaisir?
Non, j'aime vraiment. On dansait tous là, presque. Enfin, c'était vraiment bien. Ça bouge.
Tu dansais avec
ça
les
move.
Yeux.
Non, je dansais comme ça, avec les épaules. Ouais, je disais à tout le monde que la langue, le Tereo Maori, qui est la langue officielle, la deuxième langue officielle d'ici, à Aotearoa, voilà ce que j'ai fait récemment. Je vous ai fait rire, mais je vais le dire à l'antenne. En passant par Nguru, en arrivant à la marina de Tutukaka, tu montes la côte, tu redescends la colline. De l'autre côté, à Matapuri, t'arrives et il y a plein de, d'endroits où on peut acheter des plantes et j'ai acheté un cacabic que j'ai planté au fond de mon bouche. Et voilà, parce que le cacabic, c'est une espèce de, c'est genre un petit kofai. Le kofai, c'est la couleur jaune en tereo. Ça veut dire jaune. Donc, ils ont des belles fleurs jaunes qui fleurissent en septembre. C'est magnifique de planter un kofai dans votre jardin. Ça pousse assez lentement, mais assez haut. Tandis que le cacabic reste genre 2-3 mètres. Il y a plutôt un arbuste assez chouette et qui a des becs, des fleurs comme des becs rouges. Mais le problème de cet arbre, c'est qu'il est en danger. Donc, il faut en planter dans vos jardins pour continuer à attirer les touilles qui sont là et que j'ai vues. Et moi, je voulais parler de je peux en parler, là? De Waiheke?
Tu peux parler de Waiheke maintenant.
D'accord, c'est là. Donc, est-ce que vous connaissez cette belle île qui est à 30 minutes?
Tout le monde la connaît sous le nom de Waiheke.
Ah, d'accord, voilà, tout le monde se plante. Parce que...
Même les
autochtones.
Même les Waïkons, si les habitants de la... les Waïkiens.
Les Waïkons, malheureusement, on ne leur a pas...
Les Waïkites, non?
Ben, il faudrait donner un nom à cette île, un nom...
Est-ce qu'on peut juste les appeler les Iliens, peut-être pour,
Les Iliens d'en face.
Voilà.
Voilà.
On va les appeler les autres.
Les autres.
Très mystique. Parfait.
Donc les autres habitent dans une île magnifique qui s'appelle Waiheke. Et en fait, je ne le savais pas parce que je suivais les moutons. Il y en a beaucoup. Tout le monde dit prononce mal. Donc c'est Waiheke. Wai, c'est l'eau. Heke qui coule. Et en fait, ça vient de... Il y avait pas mal de cascades. Il y en a toujours à Waiheke. Et il y a des sources. Et donc, c'est l'eau qui coule. On ne dit pas hiki. Sinon, ça serait H. I en français, hein, H-I avec un point, K-I avec un point. Mais là, c'est Waiheke. Donc, quand vous le regardez comme Harakeke, les flax. Là,
mais
vous savez.
On n'est pas dans une situation où l'usage prend le pas sur,
non,
sur,
bah,
sur la
comme
règle.
On fait comme on veut, mais quand on sait, on ne peut pas s'empêcher de savoir.
Oui, mais enfin,
donc, maintenant,
est-ce qu'on ne court pas faisant ainsi de passer pour un prétentieux, pour
moi,
un pédant.
Je suis très prétentieuse et pédante. Donc, j'assume.
Oserais-tu le dire en dîner?
Mais je l'ai dit toute la journée.
Oserais-tu corriger quelqu'un en public et lui dire non, vous prononcez mal?
Non, ça dépend de la circonstance. Je ne vais pas foutre la honte à la personne, mais si la personne est juste devant moi.
Elle est très âgée, elle est fébrile, elle montre des signes de maladie.
Je m'abstiendrai, je pense.
Elle a les larmes aux yeux.
Alors, donc, je dirais, pauvre dame, elle ne savait pas. Et pas de problème.
Tu lui expliquerais?
Non.
Je la laisserai dans l'ignorance.
En revanche, je peux y ont passé le week-end là-bas, le week-end, la fin de semaine, grâce à mon amie Hélène, qui
arrête
est venue.
Arrête de faire de la publicité pour Hélène. J'ai pas le droit à la radio.
Hélène. De Saint-Tropez, elle a voulu voir. Et donc, il y a de jolis, de très beaux vignobles. Et en fait, les vignobles, on y va pas, on fait ce qu'on veut. Mais ce que je pense qui est intéressant, c'est de savoir que cette île appartient la moitié à Monsieur Spencer. Donc, toute une partie de l'île, d'ailleurs, qui est en route gravillonnée, pleine de petits gravillons. Dès qu'on sort de la route goudronnée, ça lui appartient. On est sur ses terres. D'ailleurs, ça s'appelle Man O' War Road. Donc, on est sur la route qui va à son vignoble. Toute cette partie de l'île, c'est d'ailleurs la plus grosse partie de l'île. J'ai la carte sous les yeux. Appartient à Monsieur Spencer. Donc, il y a une trentaine de vignobles. Tous différents des uns des autres parce que les terres sont différentes, la topologie, la nature des sols,
l'exposition.
Etc. L'exposition, voilà. Et c'est des vins qui se vendent dans le monde entier à des prix
ridicules,
défiant toute concurrence. 179, et bon, toutes les bouteilles sont différentes, mais vraiment, et c'est des très bons vins, hein, il n'y a pas à dire. Tu connais un peu?
Non, mais où vas-tu exactement?
Je voulais dire qu'il avait une petite anecdote. Il a, il a pensé que ça lui appartenait, il a barricadé la route. Il a mis une montagne de terre et les gens, alors c'est que de la terre, il a mis de la terre sur la route, donc personne ne pouvait passer parce qu'on arrivait sur ces terres. Et pendant 4 ans, c'est resté comme ça. Et je suis passée, ma voisine quelqu'un qui habite là-bas m'a dit, oui, pendant 4 ans. J'ai dit, mais 4 ans, mais vous êtes laissé faire. Personne n'est venu avec une brouette enlever la terre. Non, non, on a attendu qu'officiellement, il y a un procès qui lui soit fait. Le verdict a été rendu, il avait tort, et il fallait que lui-même dégage la route. Donc j'étais un peu étonnée, et ça c'est...
C'est très très étonnant comme anecdote, oui.
Bah, je pense qu'en France, parce que c'est quand même à l'accès public, voilà, mais c'est une île intéressante et qui vaut le coup de... très relaxante.
Très relaxante.
Oui.
Jusqu'à ce qu'au milieu d'une route, vous trouviez un...
Non, mais maintenant, on peut talus, passer, mais... C'est un peu...
Peut-être, peut-être pas.
Est-ce que... Des questions ?
Aucune.
C'est sympa.
Si, moi, j'ai une question. Est-ce que tu as été dégusté des vins, Séverine ?
Oui.
Ça s'entend pas.
C'était hier. Quand même. Donc, j'ai été jusqu'au bout de la route. Donc, ce qu'on appelle la partie de M. Spencer, que j'ai rencontré sur son yacht il y a pas mal de temps. J'ai été boire une coupe de champagne.
Je me disais, ces histoires vont nulle part.
J'ai été boire une coupe de champagne. J'étais sur Arcturus avec Bruce.
Tout ça pour dire, j'ai bu une coupe de champagne.
Il est mort depuis, le pauvre homme. Donc, c'est son fils qui a repris. Il est mort il y a quelques temps déjà. Il est mort.
C'était ce week-end.
Non, moi j'y étais ce week-end. La coupe de champagne, c'était il y a longtemps, il y a 17 ans.
Oh, j'étais pas née.
Il faut qu'on y aille. Donc j'ai pris, effectivement, j'ai fait une dégustation à Manowo, qui est le bottom end. Donc on appelle le bottom end, c'est vraiment la fin de l'île. Et je conseille aux gens qui veulent aller à Waiheke de prendre une petite voiture et de faire le tour de l'île parce que vous avez des paysages superbes. C'est un bol d'air frais. C'est très très. Vous êtes entouré de vignobles. Il n'y a plus de maisons. C'est la pleine nature. Et quand on arrive à cette plage Manowo, qui est une baie dans laquelle Cook est arrivé, il y a. J'avais toutes les informations, mais j'ai oublié de la relire.
De les imprimer.
Non, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà, il est arrivé. Vous voulez que je
Avant, ils ne arriveront pas.
Captain Cook.
1837. Allez, vas-y.
1769. Il arrive à Eponui.
Or donc.
Et donc, on peut arriver sur cette plage et mais là, il y avait
s'y baigner
et surtout faire des dégustations. Et ensuite, vous continuez la route et vous arrivez à Passage Rock et le chef Étienne, pas Étienne Molly, Étienne, je sais pas comment il s'appelle, et le chef français, sachant qu'ils font que des déjeuners dans les vignobles, on ne sert pas à partir de 5 heures. Donc, on est arrivé à 5h30.
C'est pas très tôt à Waiheke.
Voilà, Waiheke. Donc, je conseille, mais il y a plein d'autres, Cable Bay, très connu.
À Waiheke.
Voilà. Bon, je ne dirai rien. Je m'abstiendrai. Et la meilleure plage est... Il y a des courses de chevaux le 26 février sur la plage de Onitangi, où on déjeune fort bien aussi. Et là, une très belle plage, et la plage, il y a une plage de naturisme à de côté, vous n'êtes pas obligé d'y aller. C'est la plage de Palm Beach, que je... Voilà. Où on est resté pendant 2 jours. C'est tout.
À boire du champagne nu au soleil couchant.
Non.
Ne dis rien, l'image est forte.
Non, je dément. Mes filles ne me laisseraient pas parce qu'elles ont honte de moi.
Moi, j'ai une question, une série de questions pour tester vos connaissances de français. Je les passe tout de suite avant que mon téléphone meure de sa belle mort.
Oui.
Êtes-vous prête, Séverine, es-tu prête pour compter les points par équipe ? Complétez la phrase. Après avoir reçu... Voilà. Complétez la phrase. Après tchac, tchac, tchac de ces lettres, il a été reçu. Le tchac, 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 c'est l'acceptation ou l'acception ?
Quoi ?
De sa lettre. Complétez la phrase. Après l'acceptation de sa lettre, il a été reçu. Ou après l'acception de sa lettre, il a été reçu.
L'acception.
Alix sait. Je sais qu'elle sait.
On va dire l'acception parce que l'acceptation, ça paraît trop simple. C'est ce que j'aurais dit naturellement, mais
je crois que je suis d'accord, mais je suis pas sûre.
Moi, je.
Tu me vends un petit peu trop haut, Romain.
Non, mais ne te laisse pas influencer par Séverine. Si Séverine n'avait pas été là, tu aurais eu la bonne réponse.
Donc la bonne réponse, c'est acceptation.
Bah, bien sûr.
Mais pourquoi tu nous as fait en erreur hein.
Mais pas
alors continue,
pas
deux. Alors on a tous les deux zéro.
L'acception, c'est l'acception d'un mot. C'est la signification d'un mot.
Ah.
L'acceptation, c'est accepter quelque chose.
Je pourrais voir le mot écrit, parce que sinon...
Le mot acceptation signifie...
Non,
sens.
Alors,
voilà, voilà.
On passe.
Okay, on passe.
Voilà, prochain.
La grenouille, croasse-t-elle ou coasse-t-elle? Nos amis suisses, j'aimerais que vous participiez.
Croasse. Croasse, exact.
Moi, je dirais croasse aussi. Ah, je me suis trompée.
Alex?
Il me semble que le crapaud croasse et la grenouille coasse.
Ouh là là,
mais
c'est possible.
Je ne suis pas sûre.
En tant
c'est
que grenouille en Nouvelle-Zélande, on ferait bien.
Non, le crapaud n'a rien à voir dans cette histoire.
C'est vrai.
Tu voulais parler du corbeau. Et le corbeau croasse.
Oh,
le corbeau croasse et la grenouille coasse.
J'ai mal appris. J'ai appris quelque chose aujourd'hui.
Et bien moi aussi.
Et maintenant, quelqu'un va-t-il me dire la signification de l'expression « sabrer le champagne » ?
Oui.
Sabrer le champagne ?
Ça, on sait.
Cela veut-il dire boire la bouteille d'un trait, caressé par le soleil couchant,
oui,
ou ouvrir la bouteille de champagne à l'aide d'un sabre ?
Voilà. La deuxième.
La deuxième.
Et je l'ai déjà fait.
C'est vrai ?
Avec un sabre ?
Ici, en Nouvelle-Zélande, avec une copine, oui. Il y a 10 ans.
Mais où est-ce que tu as eu le sabre?
Les petits morceaux de verre, là, c'est bon,
bon.
C'est pas bon, ça s'avale bien.
Mais où est-ce que tu as eu un sabre et l'autorisation?
Non, c'était pas un sabre, c'était un couteau.
Ah, mais t'as quand même coupé le.
Non, avec un petit couteau à beurre.
Non, c'était un gros couteau.
Un petit couteau suisse.
Okay. Il est mort, le couteau?
Non.
Ah, ça marchait.
Très, très curieux. Tout ça. Qu'est-ce qu'un enfant prodigue, dites-moi? Est-ce que c'est un enfant qui dilapide son bien en dépenses excessives ou alors un enfant qui est exceptionnellement doué et précoce?
Je dirais la deuxième.
Moi aussi.
Tu peux redire le premier?
C'est un prodige, ça.
Un enfant prodigue.
Oh, et la linguiste à faux.
Tu es victime d'un faux ami.
Exactement. Est-ce que toi, tu es linguiste, Alix? Ou tu as fait des études de langue?
Non, elle a lu 3 livres dans ça.
Exactement, et j'en ai tiré le maximum.
Oui, un enfant prodigue, c'est un enfant... Alors moi, jusqu'à ce que je tombe sur ce coup, je pensais qu'un enfant prodigue, c'est un enfant qui donnait beaucoup.
Ah oui,
qui donnait beaucoup à ses parents, qui rendait fier. Alors que non, un enfant prodigue, c'est un enfant qui dilapide son argent.
Il me semble que c'est un mythe biblique, à l'origine. Le retour du fils prodigue.
Oui,
qui est parti à l'aventure pour dépenser tout le bien de son père. Et quand il est revenu, son père a quand même fait tuer le meilleur agneau, etc., pour l'accueillir.
T'as dû lire la Bible quand même, hein, dans les 3 livres.
Ah bah, c'est de là que je tiens cette anecdote, tout à fait.
Et le deuxième livre, c'était...
Tintin et Milou.
Le sexe faible de... Comment elle s'appelle, cette femme formidable? Mais Elisabeth Badinter.
Beauvoir. Ah, c'est pas le sexe faible, c'est le deuxième sexe.
Le deuxième sexe.
En fait, il est
l'absus révélateur.
J'essaie de lire sur l'inconscient, vous avez des langues, des fois ça va trop vite. Complétez la phrase, il y a des phrases et des arbres absolument partout. C'est une forêt luxuriante ou une forêt luxurieuse?
Moi, j'ai plus rien, je sais pas.
La linguiste.
J'ai pas peur de te tromper.
Exact.
Alors qu'il faut. Là, j'ai.
Il y a des fleurs et des arbres absolument partout. C'est une forêt luxuriante ou luxurieuse?
Luxuriante. Au hasard.
Luxuriante.
Ah, luxuriante.
Oui, je dis. Alex,
deux luxuriantes.
Je suis neutre, je suis 6.
Ça, c'est pas
3 luxuriantes.
Ouais.
Bien sûr, parce que luxurieux, c'est qui est empreint d'une sensualité lascive qui incite au plaisir sexuel.
Bon, bah, je retiens. C'était quoi déjà?
Luxurieuse. Quel mot répond à cette définition? Partie du veau coupée en deux. Donc, c'est le cuisseau, mais le cuisseau écrit 2SEAU. Ou 2SOT. Partie du veau coupée en deux.
OT.
Non. C'est une partie du veau qui est coupée en deux. C'est un veau coupé en deux. C'est le cuisseau ou c'est le cuisseau OT ou EAU?
Oui, j'ai dit OT.
C'est EAU. Voilà. La phrase j'apporte les enfants chez leur grand-mère.
Non, on ne peut pas apporter avec.
J'apporte les enfants chez leur grand-mère, si je le veux.
Tu les portes.
C'est grand.
Comme s'ils sont tout petits.
Je les apporte chez leur grand-mère. Oui, en disant cela, suis-je correct? Ma phrase est-elle correcte?
Ah, ben non. Enfin, j'amène avec les mains, tu les. Parce que ma sœur qui est linguiste, elle me l'a. D'ailleurs, tu dis. Est-ce qu'on dit des fois? Il ne faut jamais dire des fois, il faut dire parfois. Et on ne peut pas dire par contre, mais il faut dire en revanche.
Non, par contre se dit aussi. Alors ça, c'est un.
Ah,
c'est
Anouk appelle.
Non, non,
c'est un peu tôt pour toi, il est 7h, elle se réveille.
Je l'ai, lu chez des grands écrivains, des classiques.
Non, ça m'étonnerait parce que...
Mais je crois que c'était pas la question.
Ah oui, alors tu nous dis le cuisseau? Non, donc on
non c'était pas le cuisseau. On est passé à autre chose.
C'est ce qu'on les apporte chez
Ça me rappelle cet imbécile de directeur du de l'Express, Christian Barbier, qui a fait un éditorial sur Houellebecq, où il disait Houellebecq n'est pas un grand écrivain parce qu'il écrit par contre.
Oui, mais t'as raison, ça n'a rien à voir. Mais c'est mieux de dire tu fais ce que tu veux. Donc maintenant
on n'est pas censé l'écrire, mais je l'ai vu écrit maintes fois par des grands écrivains. Donc, mais tu as sur le coup, tu as tout à fait raison.
Ah, merci ma sœur.
Non, on amène les j'amène les enfants, je ne les apporte
avec
pas.
Mes mains.
Parce que sinon, ce serait des objets.
C'est bizarre,
voilà.
Bon, la Suisse, l'on joue ou...
Suisse, c'est retiré.
Quel mot a pour définition événement imprévu et soudain qui entraîne des dommages? Quel mot a pour définition événement imprévu et soudain qui entraîne des dommages? S'agit-il d'accident ou d'incident?
Un incident, je dirais.
La Suisse joue, attention.
Je dirais incident.
Et on est d'accord, mais attention.
Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, c'est toi qui as la réponse. Alix.
Et la Suisse, dès qu'elle sort d'elle, dès qu'elle sort de ses frontières, elle le regrette immédiatement. Il s'agit bien sûr d'accident.
Alors ça, il faudrait savoir, connaître neutre. Mieux les préfixes, les filles. Bon, moi, je connais. Bah, tu connais? Non, bon, passons à autre chose.
Au lieu de frimer, si tu répondais à celle-ci,
ouais.
Qui est le destinateur? Celui qui est l'auteur du message ou c'est lui à qui une chose est destinée? Le destinateur.
Ça n'existe pas.
Mais oui.
Le destinateur
écrit au destinataire.
Oui, normalement non.
Oui.
Ça paraît simple.
C'est la personne qui envoie le message. Ou... Voilà.
C'est exactement ça. C'est l'auteur du message.
Oui. D'accord.
Où en sont les scores? Parce que nous sommes seuls.
La France a gagné.
Non, elle a rien marqué.
Mais vous avez eu beaucoup faux. Et puis après, vous avez été neutre. Et là, tu viens de te planter sur incident. Donc, je déduis, Sylvie. Alors, 40 points. Alix et Enco, 65.
On se quitte très très bientôt en musique, mais avant cela, j'ai une question pour Maëva qui a découvert l'Australie, qui a passé quelques semaines, quatre mois, de très très longues minutes, plus ou moins pleines selon la saison. Et là, tu as fait l'expérience d'une certaine chaleur, une certaine qualité de l'air, de gens, de timbres, mm-hmm. de voix, de bonjour, de au revoir parfois. Et qu'est-ce que tu dirais en trois mots? Quelle est la différence la plus majeure, celle qui saute aux yeux entre les Néo-Zélandais et les Australiens?
En trois mots, entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie plutôt que sur les personnes, parce que j'ai pas beaucoup rencontré de Suisses.
Oui,
donc, chaleur.
Il ne mélange pas beaucoup les Suisses, okay, on parlera continue.
La chaleur, ouais. Il fait froid en Nouvelle-Zélande.
Je l'ai dit dans ma question, tu sais.
Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Ouais. Je m'inspire, je ne sais plus. dur.
Ah. Est-ce qu'ils sont sympas?
Donc je prends l'opportunité de cette conversation pour t'inviter à rencontrer des kiwis le plus tôt possible. Après tout, tu vis ici.
Moi, j'ai un auditeur en direct, hein, vous dire après. Je veux juste.
À qui?
Sylvia Speakman.
Ah oui, oui.
Nous bonsoir, écoute, Sylvia. C'est elle a dit j'aimerais bien savoir, confirme-moi, sinon je ne dors pas ce soir. Accident, incident. Donc on confirme que.
C'est accident.
Voilà. Je t'ai texté, mais j'espère que tu nous écoutes encore. Donc, je suis ravie de savoir que Sylvia nous écoute. Et peut-être que Hélène, Nina, Margot, Paul nous écoutent. Qui d'autre? On va mettre la musique de toute façon. C'est parti.
On n'a pas laissé tomber. Trois mots qui qualifieraient.
La Suisse se retire.
Elle se retire d'Australie, elle rentre en Nouvelle-Zélande, elle passe d'un... telle une grenouille.
Voilà.
D'un pays à l'autre.
Fuite.
Mélangez-vous, oui, frottez-vous à la population locale, parlez aux gens, apprenez leur langue, gardez la vôtre, c'est important, ça peut toujours servir. Et soyez heureux. Là, on écoute. Je voulais vous parler de ce film, on en parlera un autre jour. C'était, bon, les Flatbeats, très très bien. On vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Ciao.
Bonne soirée.
Au revoir.